Donc l'enregistrement soit lancé, c'est bon. Voilà, j'aimerais introduire mon propos ce matin avec une question qui va apparaître. Il y en a même deux, mais qui se ressemblent. Que puis-je faire pour plaire à Dieu ? Dit autrement, à quoi Dieu prend-il plaisir dans ma vie ? Est-ce que c'est ce que je fais pour lui, mes actions, mes actes, mon service qui réjouit son cœur ? Est-ce que c'est le volume de mon engagement pour Dieu et pour les autres qui entre en ligne de compte ? Est-ce que ce sont tous les sacrifices que je consentis dans ma vie qui réjouissent Dieu ? Qu'en est-il de mon offrande ? Qu'en est-il de mes dons ? Est-ce que le plaisir de Dieu est proportionnel au nombre de zéros sur le chèque de l'offrande ? À quoi Dieu prend-il plaisir dans ma vie ? Si je suis chrétien, si je me suis tourné par la foi vers Dieu en m'appuyant sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ pour mon salut, alors j'ai certainement à cœur de plaire à Dieu. Par la foi en Jésus, je suis entré dans une nouvelle relation à Dieu qui est devenue mon Père céleste. Et comme un petit enfant désire plaire à ses parents, le chrétien, le disciple de Jésus, désire plaire à son Père céleste. Ce matin, même si la réponse que je vais apporter n'est pas exhaustive et n'est pas la seule réponse possible, j'aimerais souligner, en m'appuyant sur un texte de l'Ancien Testament, que Dieu prend plaisir par-dessus tout, à notre obéissance. Je lis dans le premier livre de Samuel, Samuel chapitre 15, le verset 22. Je lis tout d'abord dans la Nouvelle Bible Second et puis dans la Bible du Semeur. Samuel dit : Le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur ? Écouter vaut mieux que les sacrifices. Prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers. Et donc, dans la Bible du Semeur, Samuel lui dit alors : Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Pour bien comprendre cette parole, il faut bien évidemment la comprendre dans son contexte. Et c'est ce que nous allons essayer de faire en la resituant donc et en regardant l'épisode de la vie du roi Saül qui a amené à cette déclaration du prophète Samuel. Je vais lire donc à partir du début du chapitre 15, toujours dans le premier livre de Samuel. Samuel dit à Saül : C'est moi que le Seigneur a envoyé pour te conférer l'onction, afin que tu sois roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées, Yahvé, l'Éternel : J'ai décidé de faire rendre des comptes à Amalek pour ce qu'il a fait à Israël quand il s'est mis sur son chemin, tandis que celui-ci montait d'Égypte. Va maintenant, attaque Amalek et frappe d'anathème tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas. Tu mettras à mort hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, moutons et chèvres, chameaux et ânes. Saül bâtit le rappel des troupes et les passa en revue à Telaïm. Il y avait 200 000 fantassins et de Juda 10 000 hommes. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans l'oued. Il dit aux Caïnites, « Allez, écartez-vous, descendez d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui. Car vous avez agi avec fidélité envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. » Les Caïnites s'écartèrent donc d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'aux abords de Chour qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il frappa d'anathème tout le peuple et le passa au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que ce qu'il y avait de meilleur dans le petit bétail et le gros bétail. Les bêtes de seconde portée et les jeunes béliers, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas frapper tout cela d'anathème. Ils ne frappèrent d'anathème que ce qui était méprisable et chétif. La parole du Seigneur parvint à Samuel. Je regrette d'avoir investi Saül de la royauté, car il s'est détourné de moi et il n'a pas exécuté mes paroles. Samuel en fut fâché. Il cria vers le Seigneur toute la nuit. Samuel se leva de bon matin pour aller trouver Saül. On lui dit, « Saül est allé au Carmel, il s'y est érigé un monument. » Puis il est redescendu au Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni du Seigneur, j'ai exécuté la parole du Seigneur. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ces bêlements de petits bétail qui parviennent à mes oreilles ?» et ces mugissements de gros bétail que j'entends ?» Saül répondit, « On les a amenés de chez les Amalécites. Le peuple a épargné le meilleur du petit bétail et du gros bétail afin de le sacrifier au Seigneur ton Dieu. Le reste, nous l'avons frappé d'anathème. » Décidément. Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'annoncer ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « N'est-ce pas lorsque tu étais petit à tes propres yeux que tu es devenu le chef des tribus d'Israël et que le Seigneur t'a conféré l'onction pour que tu sois roi sur Israël ? Le Seigneur t'avait envoyé en disant, « Va et frappe d'anathème ces pécheurs d'Amalécite. » Tu leur feras la guerre jusqu'à leur extermination. Pourquoi n'as-tu pas écouté le Seigneur ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui déplaisait au Seigneur ? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté le Seigneur et j'ai suivi le chemin sur lequel le Seigneur m'avait envoyé. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai frappé Amalek d'anathème. » Mais le peuple a pris sur le butin du petit et du gros bétail comme prémisse de l'anathème, afin de les sacrifier au Seigneur ton Dieu au Gilgal. Samuel dit, « Le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur ? Écoutez vaut mieux que les sacrifices. Prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers. » Excusez-moi, mais cette télécommande n'en fait qu'à sa tête. Voilà. L'épisode de la vie du roi Saül que nous venons de lire est un épisode où Saül fait à nouveau, c'est pas la première fois, il fait à nouveau ce qu'il veut. Il fait le choix de la désobéissance à Dieu. C'est notre deuxième point. Au début du chapitre, nous avons lu l'ordre que Dieu donne à Saül de frapper d'anathème le peuple d'Amalek. Amalek, descendant d'Ésaü, qui a toujours été l'ennemi d'Israël. Amalek, c'est dit dans le texte, qui s'était mis en travers du chemin du peuple d'Israël quand ils étaient sortis d'Égypte, mis en travers pour leur faire la guerre. Amalek, dont Dieu avait alors promis d'effacer le souvenir de dessous les cieux. Et c'est l'accomplissement de cette promesse qui remonte à Exode chapitre 17, que Dieu confie maintenant au roi Saül. Il est question dans le texte de frapper d'anathème les Amalécites. Certaines traductions de la Bible ont « voué par l'interdit ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce dont il est question ici, et ça nous bouscule, ça bouscule notre sensibilité d'occidentale du XXIe siècle. Ce dont il est question ici, c'est d'extermination totale. C'est bien de ça dont il s'agit. Frapper d'anathème ou voué par l'interdit, c'était accepter, pendant un combat et après le combat, de ne rien garder pour soi, mais de tout consacrer à l'Éternel. En effet, vous le savez, dans l'Antiquité, malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé, mais dans l'Antiquité en particulier, on exterminait facilement les peuples que l'on vainquait. Et on gardait généralement le meilleur pour soi. On s'appropriait les biens, on s'appropriait les richesses, on vendait les personnes en meilleure santé comme esclaves, on prenait des femmes pour concubines. Frapper les Amalécites d'anathème, c'était donc pour Israël accepter de renoncer à tous ses avantages. Alors, je passe rapidement là-dessus, mais par contre, je note qu'il faut que je prévoie à l'occasion de faire un message sur la violence dans l'Ancien Testament. C'est une question compliquée, mais importante, et en particulier cette violence qui semble demandé par Dieu. Ce que je dirais simplement ici, c'est que, c'est le regard que je vous propose sans beaucoup plus d'explications, c'est qu'Amalek est sous le jugement de Dieu, et que Dieu a choisi Saül pour être la main, le bras de ce jugement-là. L'ordre de Dieu est clair et sans appel. Et pourtant, Saül va désobéir. Il va épargner Agag, le roi d'Amalek, sans doute comme un trophée, et garder le meilleur du bétail, des animaux. Le texte précise au verset 9 qu'Israël ne frappa d'anathème que ce qui était méprisable et chétif, ou sans valeur. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que ce qu'il y avait de meilleur dans le petit bétail et le gros bétail, les bêtes de seconde portée, les jeunes béliers, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas frapper tout cela d'anathème, ils ne frappèrent d'anathème que ce qui était méprisable et chétif. Devant cette désobéissance, cette rébellion ostentatoire de Saül, Dieu envoie son prophète, le prophète Samuel. Samuel qui va trouver Saül, qui revient du Carmel, non pas la montagne, mais une localité du même nom, où il s'est érigé un mémorial. Après le combat, Saül qui s'est donc construit un monument à sa gloire, à la gloire de sa victoire. Rien que ça. Samuel rejoint donc Saül et il va lui demander des comptes. Des comptes en entendant les bêlements et les mugissements du bétail. Et la réponse de Saül au verset 15 mérite d'être relue. Verset 14, Samuel dit « Qu'est-ce donc que ces bêlements de petit bétail qui parviennent à mes oreilles ?» Et ces mugissements de gros bétail que j'entends ? Voilà la réponse de Saül. Saül répondit : On les a amenés de chez les Amalécites, Le peuple a épargné le meilleur du petit bétail et du gros bétail afin de le sacrifier au Seigneur ton Dieu. Le reste, nous l'avons frappé d'anathème. Il ne faut pas être très psychologue ou fin psychologue pour comprendre que Saül, ici, est en train de chercher à se débiner. Et il rejette la responsabilité sur le peuple. C'est le peuple, dit-il, qui a épargné du bétail pour le sacrifier au Seigneur. Alors excusez-moi, mais ça ne tient absolument pas la route. Il est tout à fait inconcevable d'imaginer que le peuple ait pu agir ainsi sans le consentement du roi, d'autant plus que Dieu avait donné un ordre clair. Et donc il est évident ici que Saül cherche des excuses, et nous devons dire qu'elles ne sont pas bonnes. En fait, il est évident ici, il y a un détail qui le souligne, que Saül est loin de Dieu, très loin de Dieu. Et la manière dont il formule son excuse va le révéler. En effet, Saül dit à Samuel, « Ton Dieu, le peuple a épargné le meilleur du petit bétail et du gros bétail afin de le sacrifier au Seigneur, ton Dieu, et non pas notre Dieu. » Parce que, jusqu'à preuve du contraire, l'Éternel était aussi le Dieu de Saül, n'est-ce pas ? Alors, mon propos, à ce stade, n'est pas de rentrer maintenant dans tous les détails de ce texte, mais je voulais commencer par constater, d'une manière évidente, que la désobéissance de Saül est profonde. C'est une première chose. Et puis, constater avec vous que Saül a essayé de cacher cette désobéissance. Il a essayé de la couvrir en rejetant la faute sur le peuple. Et puis, il semblerait que Saül pensait s'en tirer avec cette pirouette, en amadouant Dieu par quelques sacrifices. Allez, j'ai fait un peu les choses à ma manière, mais bon, avec quelques sacrifices, on remet tout ça en ordre et on n'en parle plus. Il semblerait que Saül pensait effectivement que tout allait rentrer dans l'ordre avec quelques sacrifices, que tout continuerait comme avant, que Dieu serait apaisé. Et à l'évidence, Saül est dans une compréhension des choses, dans une relation à Dieu qui est basée sur des actes méritoires, où l'état du cœur n'a pas vraiment d'importance. Et c'est là qu'arrive la parole de Samuel qui nous intéresse ce matin et qui, elle, souligne que ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Avant toute autre chose, ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. C'est notre troisième point. Écouter ou obéir, dans l'Ancien Testament, écouter, obéir, c'est synonyme. Écouter vaut mieux que les sacrifices. Prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers, la graisse des béliers qui coule des sacrifices, bien évidemment. Saül a désobéi à Dieu. Il n'a pas compris que ce que Dieu désire de nous, ses créatures, c'est notre cœur. Et donc, à l'évidence, Saül pensait qu'il pouvait s'arranger avec Dieu, qu'il pouvait rattraper le coup, qu'il pouvait remettre les compteurs à zéro en lui offrant quelques belles pièces du bétail. Mais ce que Dieu veut, c'est notre obéissance, notre cœur. Pas des actes aussi spirituels qu'ils puissent paraître, mais qui sont faits avec un cœur hypocrite, avec un cœur qui est loin de Dieu, avec un cœur qui ne se soucie pas de ce que Dieu dit. Bien sûr, il y avait de la place dans l'ancienne alliance pour les sacrifices. Ils étaient demandés par Dieu. Mais ils devaient être le résultat de l'obéissance. Ils devaient être le résultat d'une relation sincère à Dieu. C'est pourquoi les sacrifices sans obéissance ne valent rien, dit Dieu par l'intermédiaire de son prophète. Ils ne valent rien aux yeux de Dieu. Et nous pouvons noter ici que ce message important va être en réalité récurrent tout au long de l'Ancien Testament, où Dieu va régulièrement devoir faire dire à son peuple, par ses prophètes, ce même message. Alors, il me semblait important de montrer l'ampleur de l'importance de ce message, et j'ai donc choisi simplement trois textes qui le soulignent, et vous noterez les mots forts qui sont utilisés pour dire ce que Dieu pense de ce que le peuple fait, quand son cœur est loin et qu'il vient néanmoins le louer, le chanter et offrir des sacrifices. Le premier texte, c'est Ésaïe, au tout début d'Ésaïe, les versets 10 à 15. Et là, vous notez que Israël et Juda sont assimilés à Sodome et Gomorre. Quand il est question de Sodome et Gomorre, c'est d'Israël et de Juda dont il s'agit. Écoutez la parole du Seigneur, chef de Sodome, chef d'Israël. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre, peuple de Juda. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des bêtes grasses. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez pour paraître en ma présence, qui vous demande de fouler les cours de mon temple ? Cessez d'apporter des offrandes inutiles. L'encens est pour moi une abomination. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux convocations, je ne supporte pas le mal avec les assemblées solennelles. Je déteste vos nouvelles lunes et vos rencontres festives. Elles me pèsent. Je suis las de les supporter. Quand vous tendez les mains, je ferme les yeux pour ne pas vous voir. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas. Vos mains sont pleines de sang. C'est fort, très très fort. Et puis on retrouve la même chose dans le prophète Osée. Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre fidélité est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui disparaît. C'est pourquoi je les frappe par les prophètes, je les tue par les paroles de ma bouche, tes jugements s'imposent en plein jour, car je ne prends pas plaisir au sacrifice, mais à la fidélité. Je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. Et puis un dernier texte qui dit la même chose avec des mots toujours aussi forts. Je déteste, c'est dans le prophète Amos, vos fêtes, je les rejette. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Oui, le message est on ne peut plus clair, et il est toujours le même. Dieu ne prend pas plaisir à ce qui vient d'un cœur qui est loin de lui. Un cœur qui est double, un cœur qui est hypocrite, même s'il fait des choses qui en apparence sont bonnes, des choses que Dieu a demandées par ailleurs. Ces exemples et ce message récurrent de l'Ancien Testament nous montrent la propension importante du cœur humain à l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et puis aussi à la croyance que l'on peut au final toujours s'arranger avec Dieu si on fait ce qu'il faut au bon moment, ce qui nous permet de continuer à faire ce qu'on a envie par ailleurs. Voilà pour Saül. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Qu'en est-il de nous aujourd'hui ? C'est notre quatrième et dernier point. Notons tout d'abord que le système sacrificiel de l'Ancien Testament facilitait sans doute, la compréhension que faire, qu'accomplir était suffisant dans la relation à Dieu. Il est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à accomplir dans l'Ancien Testament. Et on comprend que la dérive était assez facile. Alors oui, bien sûr, il y a des choses à faire, il y avait des choses à faire, à accomplir pour Dieu. Mais le désir de Dieu, c'est que ces choses soient faites dans l'obéissance, bien évidemment. Pour nous qui vivons loin de cet épisode de Saül, nous devons noter néanmoins que cet écueil, ce danger de la dissociation du cœur avec ce que nous faisons, ce danger, cet écueil, il existe aussi pour nous. On n'a pas les mêmes choses à faire que dans l'Ancien Testament, mais on a aussi des choses que l'on peut faire, des choses que Dieu attend de nous, toutes sortes de choses que nous pouvons faire, que nous faisons dans notre vie de foi et qui peuvent nous donner le sentiment, nous illusionner que tout va bien, que Dieu est satisfait avec nous et que notre vie chrétienne est au top. Nous venons au culte, c'est très bien. Nous lisons notre Bible, c'est très bien. Nous prions, nous louons, nous témoignons, nous donnons à l'offrande, nous participons aux activités de l'Église quand c'est possible, et j'en passe. Nous faisons ces choses, peut-être même toutes ces choses. Mais parfois, nous ne nous remettons pas ou plus en question. Nous sommes simplement pris dans notre routine. Et nous ne nous posons pas ou nous ne nous posons plus la question du cœur, la question de l'obéissance. Nous avons le sentiment, la conviction que nous sommes dans le droit chemin et que Dieu est satisfait de nous. Et nous pouvons même avoir le sentiment que nous méritons les faveurs de Dieu pour tous nos bons et loyaux services. Bien sûr, il n'y a rien de mauvais dans toutes ces choses que j'ai listées. Comme il n'y avait rien de mauvais dans les sacrifices de l'Ancien Testament, s'ils étaient offerts avec un cœur droit, avec un cœur qui écoute, qui obéit à Dieu. Ce que Dieu condamne, c'est de faire avec un cœur qui est partagé, avec un cœur qui n'est pas sincère, avec un cœur qui est hypocrite. Ce qui est mauvais et condamné par Dieu, c'est faire toutes ces choses alors même que mon cœur est loin de Dieu. Et de faire toutes ces choses en pensant qu'elles vont masquer ma désobéissance, qu'elles vont donner le change à Dieu, qu'elles vont me racheter une conduite devant Dieu. Mais Dieu n'est pas dupe. Dieu voit notre cœur. Dieu connaît nos motivations. Et il sait si nous sommes sincères ou pas. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au sujet de ce que je suis en train de dire, je voudrais préciser ici, c'est une évidence pour certains, mais peut-être pas pour tous, que malgré ce que je suis en train de dire, Dieu n'attend pas la perfection de notre part. Il sait que nous en sommes incapables. Ce que Dieu nous demande, c'est de tendre vers la perfection. C'est de tout mettre en œuvre pour la rechercher sincèrement, tout en sachant que nous sommes pécheurs et que nous avons par-dessus tout besoin de la grâce de Dieu. Alors que faire quand nous manquons la cible, quand nous chutons, quand nous péchons, ce qui arrive immanquablement? Dieu nous invite simplement à le reconnaître. À le reconnaître devant lui, c'est ce qu'on appelle la repentance. Dieu nous invite à nous détourner de nos mauvaises voies et Dieu nous invite à recevoir son pardon. L'apôtre Jean résume ces choses dans ce verset très connu du début de sa première épître. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Oui, mes amis, c'est notre cœur que Dieu veut. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire, bien évidemment, parce que Dieu nous invite à le servir. Il nous invite à agir pour l'avancement de son royaume. Il nous invite à agir pour le bien de notre prochain. Il nous invite à agir pour la justice. Et dans ces agissements, qui sont justes et bons, il y a de la place pour des efforts. Il y a de la place pour des sacrifices que je fais non pas pour mériter Dieu, mais que je fais par reconnaissance à Dieu. Et que je fais parce que je sais que cela réjouit son cœur de père. Avoir une attitude juste dans ce domaine du faire, vous le savez tout aussi bien que moi, n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que nous sommes pécheurs, tout simplement. Il ne s'agit pas d'aller chercher très très loin, nous sommes pécheurs. Et puis il y a un facteur qui, j'allais dire aggravant, qui ne nous aide pas beaucoup, c'est que nous vivons dans une société du faire, dans une société de la performance. Nous sommes formatés dans ce sens depuis notre plus jeune âge, parce que ce qui compte, c'est le résultat, n'est-ce pas? Et malheureusement, trop souvent, quels que soient les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Bien évidemment, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au service du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons veiller. Veiller à ne pas faire un copier-coller entre ce qui se fait dans le monde qui nous entoure et ce que Dieu attend de nous dans notre vie, dans la vie de l'Église. Veiller à agir dans l'Église et dans la vie chrétienne conformément à la volonté de Dieu et non pas celle du monde dans lequel nous vivons, et donc veiller sur notre cœur, veiller sur notre cœur. Vous entendez déjà cette parole du livre des Proverbes, parole remarquable et combien importante de ce défi qui est aussi le nôtre. C'était le défi de Saül, c'était le défi, ça a toujours été le défi de tous les croyants, et c'est notre défi aujourd'hui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pour moi une évidence que l'essentiel est là. L'essentiel dans tout ce que nous avons dit est là. Il nous faut garder notre cœur. Garder notre cœur afin de marcher dans l'obéissance, dans les voies de Dieu, dans les sentiers de la justice. Garder notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Garder notre cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Il y aurait tout un message à faire ici. Plus que toute autre chose. Quel défi. Quel défi face à toute les sollicitations auxquelles nous sommes confrontés jour après jour. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et je crains malheureusement que bien souvent, la forteresse de nos cœurs soit pleine de fissures. Mais ce cœur que nous devons garder plus que toute autre chose, ce cœur doit d'abord être régénéré, transformé par Dieu. C'était la promesse que Dieu avait faite par ses prophètes en annonçant la nouvelle alliance accomplie par Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alors mes amis, permettez-moi d'être indiscret. Je ne veux pas de réponse à voix haute, hein. Répondez dans votre cœur. Mais qu'en est-il de votre cœur ce matin? Est-ce qu'il est au Seigneur? Est-ce que c'est un cœur qui a été transformé par le Seigneur ou qui est en processus de transformation? Le lui avez-vous demandé? Et puis, où se trouve votre cœur aujourd'hui, à cet instant, par rapport au Seigneur? Est-ce qu'il est proche ou est-ce qu'il est loin de Dieu? Pour répondre le plus sincèrement à ces questions, nous pouvons sonder notre cœur, et c'est une bonne chose de nous asseoir et de faire le point. Nous pouvons le faire, nous devrions le faire. Et puis nous pouvons aussi demander à Dieu de le faire pour nous, lui demander de mettre le doigt là où ça doit changer. Ça va faire mal, ça va nous bousculer, mais c'est comme ça que l'on va progresser. Lui demander de sonder notre cœur. On cite souvent ce beau verset, cette belle prière de David à la fin du psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » On cite toujours ce même texte, mais en réalité, il y en a plein d'autres qui disent la même chose, mais qui sont moins connus. J'en ai juste choisi trois rapidement. Les voilà. Un dans les Chroniques, c'est Salomon. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur entier, que ton âme y prenne plaisir, car le Seigneur sonde les cœurs et discerne toute forme de pensée. » Jérémie 17, verset 10, « Moi, le Seigneur, j'examine le cœur, je sonde les reins, c'est-à-dire les actions, pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. » Et puis le dernier dans le Nouveau Testament. « Mais comme c'est Dieu qui nous a éprouvés et approuvés pour nous confier la bonne nouvelle, nous parlons non pas pour plaire à des humains, mais pour plaire à Dieu qui éprouve les cœurs. » Alors oui, laissons Dieu sonder notre cœur, nos pensées, nos actions. Et puis surtout, agissons. Agissons là où nous avons était convaincu de le faire. Parce que ce que Dieu veut, par-dessus tout, ce à quoi Dieu prend plaisir, par-dessus toute autre chose, c'est que notre cœur lui soit consacré, que notre cœur lui soit entier. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre obéissance, c'est notre sincérité. N'oublions pas que Dieu n'est jamais dû. Il y a à la fin du sermon sur la montagne, et je termine avec cela, des paroles très solennelles de Jésus, qui résument ce remarquable discours du sermon sur la montagne et que j'aimerais simplement vous laisser en conclusion, des paroles qui nous invitent à pas seulement entendre, à pas seulement écouter, mais à mettre en pratique ce que nous recevons du Seigneur, à mettre en pratique sa parole. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète ? Par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. » Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.